Radio Notre-Dame, Radio Notre-Dame,
le grand témoin.
Mercredi 14 février, bonne matinée, bon réveil. Avec nous le grand témoin jusqu'à 8h30 et une adresse électronique pour lui poser des questions. Le grand témoin en un seul mot, @radionotredame.com. Un exemple justement, puisqu'hier c'était Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Institut, qui était notre grand témoin. Eh bien c'est Geneviève de Paris qui nous dit bravo pour son honnêteté intellectuelle, la qualité de ses recherches et de ses travaux. Bravo et merci aussi de nous avoir donné les chiffres comparés de la mortalité infantile sous Louis XIV et ceux de l'avortement aujourd'hui. On arrive à peu près à 20-25% des personnes en âge d'avoir des enfants. Voilà, c'est un message de Geneviève sur legrandtémoin@radionotredame.com. Xavier Guillou, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai regardé votre fiche là. Alors vous êtes bien sûr consultant international.
Oui,
voilà, comme Bruno Rebelle. Voilà. Vous êtes fiché. Consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique. Bon, jusque là ça va. Et après, alors je vois aussi conseiller du commerce extérieur de la France, ça c'est pas mal, vous aurez l'occasion d'y revenir. Vice-président de l'Observatoire des rébellions.
Oui, c'est une plateforme que nous avons montée avec d'autres amis qui sont très concernés sur les questions de défense, de relations internationales, mais aussi des grandes questions de sécurité. Et nous avons été interpellés par... à la fois ce qui se passait dans beaucoup de régions dans le monde, et puis aussi ce qui passait chez nous avec l'histoire des banlieues, etc. Et sur l'appréhension de ces situations. Quand vous avez le Darfour d'un côté, la Côte d'Ivoire, et puis ce qui s'est passé dans nos 200 zones de non-droit chez nous. Bon, il y a des modes opératoires qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui en termes, je dirais, d'insécurité, ou en termes de relations à la gouvernance, qui exige d'autres modes de recherche ou d'études.
Donc c'est une rébellion contre une forme de conformisme dans la façon d'agir.
Oui. Non, mais même de réfléchir, parce que aujourd'hui, si vous voulez, ce qui s'est passé avec les banlieues est quand même assez symptomatique. Quand on met 15 jours pour comprendre, à peu près, grosso modo, ce qui se passe là où il faut à peu près 2 heures pour identifier la nature du problème, c'est qu'on a un vrai problème en amont de grammaire, de méthode. Et c'est là-dessus que nous travaillons pour un certain nombre d'entreprises ou pour un certain nombre d'institutions qui nous demandent de clarifier un peu les choses pour eux. Voilà.
Alors vous-même, vous êtes un expert des sorties de crise, tout ce qui relève par exemple de Katrina, du tsunami, alors des banlieues, de la Côte d'Ivoire, tout cela vous l'analysez et vous avez un jugement là-dessus. Alors justement, les banlieues, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ce que vous auriez fait si vous aviez été un décideur peut-être. Quand la France réagira, aux éditions Erol, c'est aussi le vent de la rébellion qui souffle là, non ?
Non, parce que... Même si j'ai un esprit un peu corsaire de par mes origines, ce livre qui sort demain en librairie a été écrit à froid. Il n'a pas été écrit à chaud et pour réagir et remuer le landerneau français. Non, il a été écrit à froid pour essayer de poser la manière la plus lucide possible. L'état de la crise de la France aujourd'hui et surtout les conditions de sortie de crise et de renaissance du pays, parce que sur la crise on est à peu près tous fixés. Par contre, sur les moyens de s'en sortir et de redresser la situation et puis de repartir, d'avoir un cheminement fort, là c'est un peu plus délicat.
Quand la France réagira aux éditions Erol, c'est vous, Xavier Guillou, notre grand témoin ce matin. Vos questions, le grand témoin d'un seul mot, @radionotredame.com. Je rappelle que vous êtes donc consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique, que vous êtes déjà venu à plusieurs reprises nous en parler et que vous restez avec nous jusqu'à 8h30. À tout de suite.
Radio Notre-Dame.
La vie des associations.
Avec l'IPC.
Alors que les lycéens réfléchissent à leur orientation pour l'année prochaine, l'IPC ouvre ses portes samedi 17 mars. Pour nous parler de cette formation, nous accueillons aujourd'hui Bénédicte Matona, professeur de philosophie à l'IPC. Bénédicte Matona, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on étudie de particulier à l'IPC ?
Avec la philosophie, l'IPC veut essentiellement apprendre aux étudiants qui arrivent à utiliser leur intelligence pour appréhender le réel. Je crois que c'est vraiment ce qui caractérise le travail philosophique, rejoindre la réalité dans ses causes. C'est avoir une approche de sagesse. À partir de là, la diversité des disciplines abordées est vraiment très vaste.
Et alors justement, quel est le contenu des cours en philo ?
On peut donner 4 grands domaines. Il y a d'abord la logique, pour apprendre à bien raisonner, bien définir, poser un problème, argumenter. Il y aurait ensuite à développer tout le domaine de la philosophie de la nature, qui permet de développer les thèmes de la finalité, de la causalité, du mouvement, du temps, de l'évolution, pour donner quelques exemples. Ensuite, bien sûr, toute la question de l'homme, de comprendre ce qu'il faut mettre sous les termes d'âme, d'esprit, de corps, de la connaissance intellectuelle, de la volonté, des passions, de la liberté. Toute la question éthique, politique, sur le bonheur, les actes humains, le bien commun. Nous avons ensuite, évidemment, tout un panorama des cours d'histoire de la philosophie, médiévale, ancienne, contemporaine, moderne. Et puis, tout culmine, on pourrait-on dire, même si ce n'est pas forcément les cours les plus quantitativement les plus importants, en métaphysique, avec l'étude des causes ultimes. Voilà, cela donne évidemment une grande ouverture, il me semble, d'autant plus qu'il faut y ajouter les cours de culture, en histoire, en sciences, et puis les cours de langue.
Alors, quelle différence existe-t-il entre l'IPC et une faculté classique en philo ?
Je pense qu'on peut mettre en évidence deux points qui montre la différence. D'abord, le rythme de travail, qui est plus proche de la prépa que de la fac, au sens classique du terme, et qui donne aux étudiants une bonne préparation en vue des concours, tels que ceux des écoles de commerce ou même du CELSA. Mais plus fondamentalement, je crois que la différence, c'est que nous pensons vraiment que le but de l'étude, c'est pas simplement de savoir ce que les auteurs ont dit, mais de ce qu'il en est de la vérité des choses.
Bénédicte Matona, merci pour ces éclairages. Je rappelle que l'IPC ouvre ses portes samedi 17 mars à partir de 14h. Renseignements au 01 43 35 38 50, 01 43 35 38 50 ou sur le site internet www.ipc-asso.com. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
L'euthanasie, il faudra bien y venir, hein ?
Le clonage, si ça peut sauver des vies.
Attention. Il est urgent de comprendre ce qui se cache derrière de telles affirmations. L'Université de la vie, initiée par l'Alliance pour les droits de la vie, propose un cycle de formation générale pour une bioéthique au service de l'homme. 4 séances en mars pour expliciter les souffrances et les avancées de ces questions sensibles à la lumière de l'Évangile de la vie. Première soirée, jeudi 8 mars 2007. Renseignements et inscriptions sur le site internet www.universitedelavie.fr. ou au 01 45 23 08 29.
Une fenêtre mal isolée, c'est la porte ouverte au gaspillage d'inutiles.
La maison de la fenêtre remplace vos fenêtres, portes et volets.
Sur simple appel, nous nous déplaçons gratuitement chez vous pour vous proposer notre conseil ainsi qu'un devis gratuit. Ne jetez plus votre argent par les fenêtres, pensez à les remplacer.
La maison de la fenêtre a été référencée par l'Association française du consommateur.
01 42 11 03 03 42 11 03 03.
Appelez vite, en ce moment, votre spécialiste vous offre 20% de remise.
Le savez-vous ? Vous perdez en moyenne 1,5% d'audition par an. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Pour bien entendre, vous avez le choix entre ne pas avoir le choix et le plus grand centre d'audition au monde. En une heure, Grand Audition fait les mesures nécessaires à l'optimisation de votre audition et fabrique vos aides auditives numériques dans son laboratoire intégré. Pour tester votre audition ou participer aux conférences gratuites du lundi, appelez Isabelle au 01 43 59 43 59.
Grand Audition, 43 avenue Franklin Roosevelt à Paris ou sur grandaudition.fr.
Pourquoi ne pas tenter une expérience humaine radicale et authentique ? Venez vous immerger pendant 10 jours au Vietnam, dans un village rural, et partagez la vie quotidienne des familles qui vous accueilleront. Vie paysanne, travail dans les rizières, prière avec les habitants chrétiens. Renseignements au 01 44 09 49 27 ou sur www.ictusvoyage.com. Ictus Voyage. Gardez le sens, voyagez autrement.
Radio Notre-Dame.
Le 6h-9h.
Mercredi 14 février, le grand témoin ce matin, Xavier Guillou, consultant international pour la prévention des risques et l'aide à la décision stratégique quand la France réagira aux éditions Erol. Il est notre grand témoin ce matin, il commente l'actualité juste après les infos présentées par Jean-Marc Roquez. Il est 7h30, bonne matinée.
Bonjour, le Vatican condamne un attentat antichrétien. Le président Chirac exprime son horreur et sa consternation. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne. Ce sont quelques-unes des réactions après le double attentat qui a frappé hier deux bus dans un quartier chrétien du nord de Beyrouth. Trois personnes ont perdu la vie dans ce qui est la première série d'attentats contre des bus depuis la fin de la guerre civile libanaise il y a 16 ans. C'est donc dans une lourde ambiance que le Liban s'apprête à commémorer aujourd'hui le 2e anniversaire de la mort de Rafik Hariri. L'attentat à la voiture piégée contre l'ancien premier ministre libanais à Beyrouth en 2005 avait fait au total 23 morts. À l'appel de la majorité parlementaire anti-syrienne, un grand rassemblement doit avoir lieu aujourd'hui place des Martyrs dans le centre de la capitale libanaise. Pour éviter tout débordement, des milliers de soldats, des blindés et des barrières sont déployés un peu partout dans la ville de Beyrouth. Un blog catho pour la présidentielle, il est hébergé par le diocèse de Gap et explique que l'Église, se basant sur l'enseignement social de l'Église et forte de ses 2000 ans d'histoire et de méditation de l'Évangile, propose une expertise à tous les hommes de bonne volonté dans le domaine socio-économique. On trouvera donc chaque jour sur le site du diocèse, www.diocèsedegap.com, des éléments d'appréciation des propositions émises par les divers candidats. L'Église slovaque, quant à elle, va se pencher sur les dernières décennies de son histoire, y compris la période fasciste et celle du communisme. L'épiscopat slovaque prend cette décision alors que se multiplient les révélations de personnalités ayant collaboré avec la police secrète communiste tchécoslovaque. Parmi ces personnalités figure l'archevêque slovaque de Bratislava, Mgr Jan Sokol. Quant à Mgr Stanislav Jelgus, qui dut démissionner de l'archevêché de Varsovie, il saisit la justice pour se faire disculper des accusations de collaboration avec l'ancienne police secrète communiste. Benoît XVI appelle à combattre chaque forme de mépris de la vie et à soulager les drames de la solitude et de l'abandon. Le Saint-Père s'exprime ainsi dans son message de carême, principalement axé sur une réflexion théologique à propos de l'amour de Dieu. La Corée du Nord, quant à elle, va se débarrasser de son armement nucléaire. C'est l'accord historique signé hier à Pékin. Il comprend la livraison par l'Occident au régime stalinien de pétrole et d'électricité, et avec comme contrepartie le démantèlement par la Corée du Nord de son armement atomique. Réaction de Washington qui va retirer la Corée du Nord de sa liste des États terroristes, lever les sanctions commerciales qui la frappent et établir des relations diplomatiques avec Pyongyang. Sorti de prison de Philippe Bidard, le chef historique d'Iparitarak, le mouvement indépendantiste basque armé, bénéficie d'une libération conditionnelle et a donc passé libre tôt ce matin la porte de la centrale de Clairvaux après 19 ans derrière les barreaux. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de deux CRS et d'un gendarme.
Radio Notre-Dame, un autre regard sur l'actualité.
Du soleil, Jean-Marc, mais du soleil pour demain.
Et voilà, exactement. Vous avez bien résumé. Pour aujourd'hui, ce sera encore du vent, de la pluie et des températures 12 degrés. Attention, petit avertissement, fin de matinée, aux alentours de 10h, midi, un front froid passera sur Paris. Il y aura de fortes rafales de vent à ce moment-là, de l'ordre de 100 km/h. Ça ne durera pas, mais prudence. Effectivement, à partir de demain, jeudi, et au moins jusqu'à samedi, eh bien, ce sera le retour du soleil, quelques petits nuages légers, plus d'averses, et une légère baisse des températures, surtout le matin.
Message. La pauvreté et l'exclusion ne sont pas des fatalités. Chaque semaine, dans Message, le magazine du Secours catholique, je vous invite à rencontrer ceux qui agissent pour une société juste et fraternelle.
Message.
Reportages, témoignages et éclairages pour mieux comprendre les causes de la pauvreté. Message chaque mardi à 17h, votre rendez-vous avec la solidarité, la générosité et l'espérance.
La beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florent Vlaïkou. Radio Notre-Dame,
le 6h-9h.
Xavier Guillou, notre grand témoin ce matin jusqu'à 8h30. Xavier Guillou, consultant international en gestion de crise. Il est également conseiller du commerce extérieur de la France, vice-président de l'Observatoire des rébellions. Il a eu l'occasion de nous en parler juste avant 7h30, quand la France réagira aux éditions Erol. Remettre du sens, sortir du blocage social, stopper l'hémorragie financière. Ce sont les axes notamment que vous développez. Avec aussi, peut-être faut-il insister là-dessus, Xavier Guillou, un point particulier sur le sens spirituel que vous donnez à votre réflexion.
Oui, parce que, et je ne suis pas le seul à évoquer cette question-là. Je rends hommage à un collègue qui s'appelle Stéphane Rosès, qui a
L'Institut CSA.
L'Institut CSA, qui fait beaucoup de travaux sur les élections aujourd'hui, qui disait que la France aujourd'hui avait un vrai problème, qui n'était pas uniquement un problème de financier ou d'insécurité, comme beaucoup voudraient le limiter, mais qui est un problème spirituel. C'est-à-dire que, en fait, notre pays ne s'y... Les Français ne savent plus très bien où ils sont, ce qu'ils sont, et où ils vont. Alors ça c'est, je dirais, sur la première dimension identitaire, mais quand on gratte un petit peu et qu'on essaye de comprendre pourquoi ces questions aujourd'hui se posent, et avec une certaine acuité, eh bien on s'aperçoit que dans toutes les enquêtes qui sont faites ici ou là, ou moi dans tous les entretiens que je peux avoir sur le terrain avec les gens, eh bien les Français n'ont plus de lien avec leurs racines culturelles d'une part, il y a un délitement dans ce domaine-là, et puis n'ont plus de lien avec la spiritualité. Enfin, il y a une forme au-delà du désenchantement vis-à-vis d'un certain nombre de grandes dimensions qui sont celles de la croissance, l'économie, la société, etc. Il y a une forme de désespérance qui est terrible dans ce pays. Qui est lié à un demi-siècle, alors là je vais peut-être très loin dans mon propos, mais un demi-siècle de marxisation très très fort qui a bien pénétré je dirais l'ensemble du pays, de déchristianisation systématique qui fait que les Français n'ont plus de possibilité d'aller sur ces champs à la fois du mystère, sur de bien comprendre ce qui se passe au sein des religions, enfin de
phase avec le temps qui passe, tout simplement.
Et puis oui, enfin sur des questions fondamentales et vitales pour eux-mêmes et pour nos sociétés, quoi. Et puis ils se retrouvent face à un monde où ces questions de spiritualité ou les questions religieuses derrière réémergent de façon très très forte et sont au cœur des questions identitaires. Et je pense qu'aujourd'hui le rendez-vous que nous avons en France ne se joue pas, même s'il y a des ingrédients extrêmement explosifs et importants sur le plan, je dirais, économique et social, ou sur le plan sécuritaire, etc. Il se joue sous ce champ-là. Il se joue sous ce champ identitaire et spirituel.
Mais alors, ça va extrêmement loin, Xavier Guillou, puisque vous qui voyagez énormément et qui côtoyez les décideurs de l'étranger, ils vous disent eux-mêmes que la France décroche, que ce pays est fou, et qu'il risque de se retrouver marginalisé, mis à l'écart.
C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que il y a eu la conjonction de deux types de questionnements. Il y a eu des questionnements à l'intérieur du pays que j'ai pris en compte depuis 2-3 ans entre tous mes contacts chez l'entreprise, surtout avec le contact des étudiants ou des jeunes. Et tout le monde me disait, on voit à peu près grosso modo qu'il se passe des choses en Chine, en Inde, etc. Mais on comprend plus tellement bien ce qui se passe chez nous, on a l'impression qu'on est en train de décrocher, etc. Alors ça, je dirais c'est le genre de questions qu'on voit très bien sur le plan du territoire national. Mais quand vous voyagez à l'étranger, que vous allez, alors c'est sûr que si vous allez aux États-Unis, c'est tout de suite suspect pour les auditeurs, parce que les Américains sont forcément critiques vis-à-vis de la France. Mais quand vous allez en Chine, que vous allez en Inde, que vous allez au Moyen-Orient, que vous allez au Maghreb, etc., enfin même dans les pays européens, surtout dans les pays européens, et que les dirigeants de ces pays, les chefs d'entreprise de ces pays, et surtout les étudiants de ces pays, vous disent « mais vous êtes devenus complètement fous ». Et incompréhensible, et que vous, sur le plan opérationnel, quand vous êtes sur de la gestion d'affaires ou de négociations un petit peu délicates, vous vous rendez compte que vous décrochez progressivement, parce que les positions de la France, vos façons de travailler, vos façons de voir les choses, etc., ne sont plus en accord avec ce qui se passe dans le reste du monde, à un moment donné, on se pose quand même des questions de fond. Et c'est ce qui m'a amené à écrire le livre. Parce que je me suis dit, il faut vraiment que, pour l'ensemble des Français, on clarifie ces choses-là, qu'on arrête de raconter des histoires, qu'on passe d'un discours un peu implicite, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, tout va bien, et le reste du monde va se conformer finalement à un moment ou à un autre à nos opinions et à notre façon de voir les choses, etc. Moi, dans le livre, je dis, écoutez, franchement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et ça va faire très, 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 très mal. Parce que nous sommes partis sur des... non pas sur des postures où on va pouvoir se reconfigurer, mais sur des impostures de fond. Enfin, je veux dire, on a un vrai problème de dialogue avec le monde. Et aujourd'hui, le monde nous renvoie sous effet miroir des photographies qui ne sont pas très sympathiques.
Xavier Guillou, vous êtes né en Charente-Maritime en 1954, mais votre enfance a largement été jalonnée de voyages, l'Allemagne, l'Afrique, Madagascar. Avec vos parents, vous vivez pleinement cette période de reconstruction de la France et de la décolonisation. Marion Duchesne.
Aux avant-postes de l'histoire, j'ai été façonnée aux mutations de l'époque, raconte Xavier Guillou, et j'ai rencontré des gens audacieux, enthousiastes, ne subissant ni le quotidien, ni l'adversité. Issu d'une famille d'entrepreneurs, le jeune homme fait ses études de lettres et de sciences humaines dans l'ouest de la France. Ça vous trempe le tempérament, avoue Xavier Guillou. Très vite, le jeune homme s'intéresse à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Nous vivons dans une période de mutation, des mouvements de société qui ont modifié notre relation au temps et à l'espace. Cela m'a toujours passionné. Pour Xavier Guillou, les rencontres humaines ont sans doute été l'ingrédient le plus fort de son parcours. Et pour cause, ancien responsable des services secrets français, l'homme a été de toutes les crises militaires et diplomatiques. La guerre froide, Beyrouth, Sarajevo, l'Afghanistan, mais aussi les désastres naturels, le tremblement de terre de Kobe ou encore l'ouragan Katrina. Spécialiste depuis plus de 25 ans du risk management et de l'intelligence stratégique, Xavier Guillou croit aux vertus de l'imagination et de l'audace. On fait beaucoup de diagnostics, beaucoup de prévisions. Pour autant, il ne faut pas s'enfermer dans la fatalité du désespoir. Qui ose gagne, répète Xavier Guillou. Profondément chrétien, l'homme croit aussi en l'espérance. C'est ce que l'on va puiser au plus profond de soi, de ses racines et de sa spiritualité. Et au passage, il montre du doigt notre société cynique et nihiliste. Enseignant à l'université et dans les grandes écoles, Xavier Guillou n'a qu'un objectif, accompagner la jeunesse d'aujourd'hui. L'essentiel pour moi, c'est de faire émerger le talent des gens, d'aller chercher au fond de chacun ce qu'il y a de meilleur.
Votre passage au service de renseignement français, vous la jouez discrète sur ce coup-là, non ?
Oui, parce que c'est une éthique et bon, maintenant c'est un peu connu, donc ça a été explicité plusieurs fois sur les chaînes, donc ou sur les radios. Donc oui, c'est vrai, j'ai apporté ma compétence à ce pays et j'en suis très fier et j'ai croisé des gens extraordinaires.
Est-ce qu'on peut
et
encore
j'en dis pas plus, voilà.
Voilà, le service de renseignement qui est fidèle à sa réputation. Est-ce qu'on peut encore justement mener une politique de renseignement efficace quand on ne sait plus précisément qui on est, où on va, c'est-à-dire ce que vous nous dites juste avant, ce que vous venez de nous dire.
Je crois qu'il faut bien faire la différence, si vous voulez, entre ce que un service de renseignement peut apporter et faire. Et là, vous avez des gens qui ont des compétences certaines sur le terrain, qui sont capables de se redéployer s'il le faut, etc. Et puis ce que le politique ou les décideurs d'un pays souhaitent et veulent. Un service de renseignement n'est performant que si le commanditaire en amont qui valide le cahier des charges est lui-même très performant. Et donc si vous avez des politiques qui sont visionnaires et qui ont une certaine ambition, une certaine autorité dans leur approche de la vision du monde, les services de renseignement pas derrière sont, et s'il y a confiance entre les deux, les services de renseignement sont généralement extrêmement performants. Parce que là vous avez des hommes qui sont très aguerris, qui sont prêts à aller au contact de l'histoire. Mais si vous avez des hommes politiques qui sont dans le bricolage et puis qui sont dans les arrangements perso ou de clan, etc., les services de renseignement ne peuvent faire que le minimum du cahier des charges. Quoi. Donc faut pas demander, si vous voulez, aux services de renseignement d'être plus royaliste que le roi.
En une période électorale comme celle-ci, où on imagine qu'un certain flottement étreint l'administration et tous les services de l'État, vous pensez qu'il y a une sorte de service... minimum service public,
ouais, non, mais
continue sur ce
plan-là. Je connais bien quand même toutes ces maisons pour y avoir exercé des responsabilités. Moi, je fais confiance, si vous voulez, non seulement au professionnalisme des gens qui sont. Vous croire que je fais de la langue de bois, mais c'est pas de la langue de bois. Je crois beaucoup au professionnalisme des gens qui sont dans ces métiers-là. Et ces métiers-là, c'est quand même un don de soi. Vous ne faites pas ces métiers-là comme vous travaillez, à la poste ou ailleurs. Enfin, bon, je veux dire, c'est des métiers où vous risquez votre vie en permanence. Et donc, c'est des gens qui ont quand même un très très haut sens du pays et des intérêts du pays. Et ils tiennent la boutique quand même. Faut pas sortir là-dessus. Je me fais pas trop de soucis. notamment sur des enjeux qui sont quand même des enjeux pour les Français qui sont vitaux, comme la lutte antiterroriste et autres. Il n'y a pas de bricolage sur ces questions-là. On est quand même une puissance nucléaire, on est quand même au Conseil de sécurité, enfin on a des responsabilités internationales majeures, et on a quand même des gens qui sont d'un très bon niveau.
Donc de ce point de vue, la France n'est pas si discréditée que cela.
Non, je le dis dans le livre, nous avons des défaillances dans certains domaines, mais dans ce domaine-là, nous avons plutôt ce qu'on appelle des pointes de diamant qui sont très sérieuses et très réputées. Et très, quand vous êtes dans le monde anglo-saxon, les Français sont réputés. Enfin, je veux dire, ils sont même parfois admirés.
Hein. Xavier Guillou, à tout de suite, juste après l'évangile, 8h moins le quart.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades, dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Nous sommes aujourd'hui la fête de Saint Cyrille et Saint Méthode. C'est les grands évangélisateurs des peuples slaves, des pays de l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Et aujourd'hui, bien sûr, nous comprenons que l'Évangile nous montre la moisson. Pour des évangélisateurs, bien, c'est très important. Et non seulement du temps de Saint Cyrille et Méthode, mais aujourd'hui encore, bien sûr. Et nous pouvons être surpris que Jésus dise « la moisson est abondante ». Parce que dans notre monde où on a l'impression, en France en particulier, que les gens sont plus dans l'indifférence religieuse, ou dans une recherche tous azimuts, très basique, d'une certaine religiosité. Eh bien non, la moisson est abondante. Jésus dit cela, parce que de fait, l'Esprit travaille le cœur des hommes. Et quand Jésus envoie ses disciples deux par deux devant lui, donc avant que lui-même arrive, c'est pour préparer sa venue. Oui, mais il y a déjà quelqu'un qui est passé. C'est l'Esprit Saint. Il est déjà même avant ceux qui préparent sa venue. Donc nous-mêmes, quand nous allons auprès de nos frères et que nous voulons vivre l'Évangile et leur faire comprendre toute cette signification profonde, cet amour profond que nous recevons de Dieu dans notre vie, nous savons que, et nous devons le savoir, ne pas l'oublier, que l'Esprit Saint travaille déjà, bien avant nous, avant que nous arrivions, et aussi pour préparer cette venue plus grande du Christ dans leur vie. Alors Jésus est sans illusion. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le monde de temps de Jésus, comme celui d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'illusion à avoir, bien sûr. Et en même temps, eh bien, nous y allons en toute liberté. Sans argent, sans sac ni sandales, on y va en toute liberté, c'est ça que cela veut dire. Et nous sommes les porteurs de cette paix du Christ à tous ceux qui nous rencontrent. Nous devons en effet, là, apporter tout ce qui peut rendre meilleur le monde, comme la lutte contre les maladies, là, guérissez les malades, dit Jésus. Et le règne de Dieu est tout proche, le règne, mais c'est lui le règne. C'est lui. Seigneur, viens, nous disons dans notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, viens, nous préparons ta venue, nous l'attendons, nous la souhaitons, viens chez nous, transforme-nous.
Le Père François Jourdan de la paroisse du Saint-Esprit dans le 12e.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Xavier Guillou, consultant international en gestion de crise, de risque. La France, quand la France réagira aux éditions Erol avec nous jusqu'à 8h30, vos messages sur legrandtémoin@radionotredame.com. Les unes de la presse, si vous le voulez bien, Xavier Guillou, avec les Français qui attendent mieux des médias, c'est la une de La Croix. Selon la 20e édition du baromètre La Croix s'offresse, eh bien la demande d'information est forte, mais la confiance dans les médias est limitée. Juste un chiffre, croyez-vous que les journalistes sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils résistent aux pressions des partis politiques et du pouvoir et aux pressions de l'argent? Eh bien non, pour 60%, plus de 60% à la première question, ils ne sont pas indépendants des partis politiques et du pouvoir, non à 63%, et aux pressions de l'argent, non à 60%. Donc plutôt une certaine méfiance, ou du moins une certaine lucidité sur ces questions des médias. La une du Figaro, ISF, l'exil fiscal s'accélère. Depuis 1997, entre 24 et 32 milliards d'euros se sont évaporés. Mouvement qui s'est amplifié ces dernières années. Ce n'est pas encore l'hémorragie, mais cela n'augure rien de bon pour la vitalité de notre économie. En 2005, la France a perdu près de 2 contribuables par jour, Xavier Guillou.
Oui, enfin, quand le Figaro dit que ce n'est pas l'hémorragie, moi je suis désolé, on est déjà dans l'hémorragie. Hein. Alors, bon, déjà, faut rassurer les Français, il n'y a plus de riches en France. Hein. Les riches sont déjà partis depuis longtemps. Donc là, on est en train d'attaquer une autre couche hein, qui est, pour moi, beaucoup plus délicate. Hein, c'est un vrai signal fort. Ce sont les classes moyennes qui partent. Et surtout, ce sont des jeunes qui partent. Des jeunes qui aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont à perdre, ils préfèrent démarrer une vie ailleurs et puis mettre toutes leurs chances de leur côté. Je crois que les jeunes ont fait un travail de lucidité que les autres générations, enfin ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, voire même les retraités, ne veulent pas faire. Ils ont une vision du pays qui est beaucoup plus lucide et beaucoup plus pragmatique que la nôtre. Moi, ce qui m'interpelle dans la une du Figaro que j'ai vue ce matin très tôt.
Un chiffre mirobolant.
Il y a deux chiffres qui m'interpellent. Le premier, c'est deux départs par jour. Moi, j'étais à 1,2. Là, on est à 2. Donc, ça veut dire qu'on est en train de doubler. Donc, ça va très vite. Et la deuxième chose, c'est 500 000 PME qui vont être sur le marché d'ici 2-3 ans, parce qu'on arrive à ce fameux papy boom. Et c'est ce que je dis dans le livre. On a 75% de nos dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui arrivent à l'âge de la retraite et puis qui voient l'ISF, voient l'insécurité politique là, qui est en train de se générer en ce moment, et se disent, bon, bah moi j'ai beaucoup donné à mon pays, à mon entreprise, etc. Les affaires de succession ou de transmission de l'entreprise. Essayez de transmettre une PME à un jeune aujourd'hui, hein, à un jeune qui a envie de créer une entreprise. Je vais vous dire, il faut... c'est la voie à la sanctification, hein, cette affaire-là. Hein. Donc, c'est du délire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces chefs d'entreprise? Ils vont mettre ça sur le marché. Vous avez des fonds de pension anglo-saxons qui vont arriver, qui vont récupérer ça. Et ça va être là une autre forme d'hémorragie, c'est-à-dire qu'on va perdre nos actifs et on va perdre des actifs qui sont intéressants, parce que c'est sur ces PME, PMI que se fait l'essentiel de la créativité nationale.
Ce qui s'est passé pour les entreprises du CAC 40 qui assez largement dépendent d'investissements étrangers, ça va se passer pour une couche plus substantielle de la société et de notre tissu économique.
Oui, mais vous savez, les marins connaissent bien ça, hein, c'est ce qu'on appelle le fetch en matière d'analyse de la vague. Hein, c'est en fonction de la longueur de la vague et puis de la rapidité entre chaque vague, on voit très très bien qu'on va se prendre des vagues de plus en plus importantes par derrière. Quoi. Donc on a vu arriver un certain nombre de vagues il y a 10-15 ans sur les très grands groupes, on les a vu arriver il y a 7-8 ans sur les entreprises de taille intermédiaire, hein, qui faisaient plusieurs milliards d'euros, mais qui n'étaient pas des grands groupes. Et maintenant on le voit arriver sur les PME, PMI. Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter de faire des constats et puis prendre des mesures, quoi. Des mesures qui auraient dû être prises il y a 30 ans, qui n'ont pas été prises, quoi. Donc maintenant, je ne vais pas dire qu'on en subit les effets, mais la réalité s'impose, quoi.
Vous suggérez une idée très transgressive qui est de créer des fonds de pension à la française.
Ouais, mais on aurait dû le faire il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on aurait dû faire il y a 30 ans, c'est de créer un vrai marché financier en France, hein, et qui aurait pu être leader sur le plan européen. Aujourd'hui, l'affaire est réglée. C'est le NYSE, c'est New York qui a racheté Euronext, hein, alors que Euronext est plus moderne que le NYSE, mais bon, on est dans cette espèce de paradoxe. Et puis la deuxième chose, c'était de créer ce que les Américains appellent les business angels, c'est-à-dire de drainer une grande partie de l'argent, parce que ce pays est quand même riche. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Enfin, il y a de l'argent. Enfin,
le capital risque.
Et plutôt que de le mettre dans de l'épargne qu'en plus de ça, on va faire fructifier aux États-Unis ou ailleurs, eh bien, on le mettait dans de la prise de risque. Et puis, ça accompagnait toute la transformation de nos sociétés. Parce que les gens s'imaginent qu'une société se transforme une fois, et puis après, c'est terminé. Ce qu'on a fait dans les années 80-90, eh bien, on s'en prend après pour quasiment un siècle de revenus acquis. Mais non, il faut aujourd'hui transformer nos outils économiques quasiment tous les 10 ans. Quasiment tous les 10 ans. Quand vous regardez par exemple sur les marchés aujourd'hui, vous avez 90% des produits qui vont être mis en vente dans les 10 ans qui viennent qui ne sont pas inventés aujourd'hui. 90%. C'est énorme. Donc ça suppose un travail de créativité, de recherche, de développement, etc. Mais quand vous regardez l'argent qui s'en va aujourd'hui de France, c'est l'équivalent des budgets qu'il nous faudrait pour pouvoir faire de la recherche et développement. Alors si vous dites ça aux membres du Parti communiste ou à Olivier Besancenot, il va vous dire bon, on met quasiment un filtre à la sortie, on récupère l'argent et on va la réinjecter dans... On est sûr du résultat. C'est-à-dire que ça n'ira jamais sur la recherche et développement. Ça va nourrir un certain nombre de...
Ça ira dans les mécanismes de redistribution.
Oui, de redistribution politique, etc. Mais il faut arrêter ce délire. Parce que,
mais alors Xavier Guillou, est-ce qu'un traitement de choc aujourd'hui est possible? Est-ce que les politiques ont les moyens justement de mener à bien ce traitement? Est-ce qu'ils ont encore les outils à leur disposition?
Écoutez, pour moi, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème de volonté. Dans ma vie, j'ai eu à travailler sur le redressement de pays ou sur le redressement d'entreprises, etc. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément la même chose, etc. Mais je suis désolé, on passe par les mêmes méthodes quasiment. J'ai un cas comme ça qui s'est posé pour un très grand groupe français dans lequel j'étais, où on avait diagnostiqué très rapidement qu'on avait quasiment 1,8 milliard de pertes et de provisions sur 2 milliards de capital. Donc théoriquement, dans un truc comme ça, vous êtes en faillite. C'est le cas de la France aujourd'hui, parce que c'est pas parce que vous avez du patrimoine et de l'actif que vous n'êtes pas en faillite sur votre trésorerie. Or aujourd'hui, le problème de la France, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire nos fins de mois. Et faut bien expliquer aux Français, c'est pas parce que vous avez une maison avec une évaluation de cet actif et de ce patrimoine, si vous n'arrivez pas à boucler votre fin de mois, ben, vous êtes quand même très mal. Hein. C'est le cas de la France. Et pendant un an, on a eu des consultants qui sont venus, qui ont fait des groupes de progrès, des machins, etc. Et tous les jours, on perdait du fric. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un traitement de choc et l'entreprise a été redressée
en à peine 2 ans. Xavier Guillou, on se le réserve, cette explication, on se la réserve après 8h. Si
le 6h-9h.
Chaque jour, de 10h à midi, Billy et Étienne Lorailler vous invitent à mieux connaître votre région, l'Île-de-France. Ses lieux, son patrimoine, ses acteurs, son église, un vrai magazine régional proche de vous. Le 10h midi, c'est aussi le mot de l'archevêque de Paris et l'éclairage de Marie-Noël Tabu sur les textes de la liturgie du dimanche. Rendez-vous en Île-de-France du lundi au vendredi de 10h à midi sur Radio Notre-Dame.
Se former pour comprendre et agir. Telle est la vocation de l'IPC, Faculté libre de philosophie et de psychologie. Retrouvez la chronique de Guillemette Sordet pour l'IPC chaque mercredi dans nos matinales à 6h24 et 7h24.
Une fenêtre mal isolée, c'est la porte ouverte au gaspillage inutile.
La maison de la fenêtre remplace vos fenêtres, portes et volets.
Sur simple appel, nous nous déplaçons gratuitement chez vous pour vous proposer notre conseil ainsi qu'un devis gratuit. Ne jetez plus votre argent par les fenêtres, pensez à les remplacer.
La maison de la fenêtre a été référencée par l'Association française du consommateur.
01 42 11 03 03 42 11 03 03.
Appelez vite, en ce moment, votre spécialiste vous offre 20% de remise.
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir toute la grâce de Dieu. Ictus Voyage, spécialiste des marches dans le désert, vous invite à vous ressourcer dans le Sinaï biblique, le Hogar de Charles de Foucault, le désert blanc, les dunes du Sahara. En mars et en avril à partir de 798 €. Renseignements au 01 44 09 49 27 ou sur www.ictusvoyage.com. Ictus Voyage. Gardez le sens, voyagez autrement.
Dis maman, est-ce que c'est là l'église où j'ai été baptisée?
Vois cette église. C'est là où nous avons dit un dernier au revoir à ta grand-mère.
Tu vois là, c'est l'église où ton père et moi nous sommes mariés. Et là, c'est l'église où j'aime venir prier.
Pour chacun de nous, il y a une église dans notre vie.
À nous de la faire vivre. Dans toutes les églises d'Île-de-France, un dépliant de participation financière au denier de l'église est à votre disposition.
Radio Notre-Dame.
Mercredi 14 février, le grand témoin jusqu'à 8h30 chaque matin. C'est un regard pertinent sur l'actualité. Ce matin, nous analysons notre situation, celle du pays. Et bien sûr, nous essayons d'offrir les moyens de comprendre la façon dont on peut le redresser. Quand la France réagira, avec Xavier Guillou, notre grand témoin ce matin. Xavier Guillou, auteur de cet ouvrage aux éditions Erol, notre grand témoin jusqu'à 8h30. Les infos, Jean-Marc Requez, 8h.
Bonjour, le Vatican condamne un attentat anti-chrétien. Le président Chirac exprime son horreur et sa consternation. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne. Ce sont quelques-unes des réactions après le double attentat qui a frappé hier deux bus à Bikfaya, ville chrétienne au nord de Beyrouth et fief de la famille Gemayel, dont le fils Pierre a été assassiné en novembre dernier. Trois personnes ont péri dans ce qui est la première série d'attentats contre des bus depuis la fin de la guerre civile, il y a maintenant 16 ans. C'est donc dans une lourde ambiance que le Liban s'apprête à commémorer aujourd'hui le deuxième anniversaire de la mort de Rafik Hariri, l'attentat à la voiture piégée contre l'ancien Premier ministre libanais à Beyrouth en 2005 avait fait 23 morts. À l'appel de la majorité parlementaire anti-syrienne, un grand rassemblement doit avoir lieu aujourd'hui place des Martyrs, dans le centre de la capitale libanaise, et pour éviter tout débordement, des milliers de soldats déblindés et des barrières sont déployés partout dans la ville de Beyrouth. Un blog catho pour la présidentielle, il est hébergé par le diocèse de Gap et explique que l'Église, se basant sur son enseignement social et forte de ses 2000 ans d'histoire et de méditation de l'Évangile, propose une expertise à tous les hommes de bonne volonté dans le domaine socio-économique. On trouvera donc chaque jour sur le site du diocèse www.diocèsedegap.com des éléments d'appréciation concernant les propositions émises par les différents candidats. L'Église slovaque va se pencher sur les dernières décennies de son histoire, y compris la période fasciste et celle du communisme. L'épiscopat slovaque prend cette décision alors que se multiplient les révélations de personnalités qui auraient collaboré avec la police secrète communiste tchécoslovaque. Parmi ces personnalités figure l'archevêque slovaque de Bratislava, Mgr Jan Sokol. Quant à Mgr Stanislav Jelgus, qui dut démissionner de l'archevêché de Varsovie, il saisit la justice pour se faire disculper des accusations de collaboration avec l'ancienne police secrète communiste. Benoît XVI appelle à combattre chaque forme de mépris de la vie et à soulager les drames de la solitude et de l'abandon. Le Saint-Père s'exprime ainsi dans son message de carême, principalement axé sur une réflexion théologique à propos de l'amour de Dieu. La Corée du Nord va se débarrasser de son armement nucléaire. C'est l'accord signé hier à Pékin, un accord historique. Il comprend la livraison par l'Occident au régime stalinien de pétrole et d'électricité, en contrepartie de la Corée du Nord, le démantèlement de son armement atomique. Réaction de Washington qui va retirer la Corée du Nord de sa liste des États terroristes, lever les sanctions commerciales qui la frappent et établir des relations diplomatiques avec Pyongyang. La sortie de prison de Philippe Bidart, le chef historique d'Iparé Tarak, le mouvement indépendantiste basque armé, bénéficie d'une libération conditionnelle. Il a passé 19 ans derrière les barreaux pour le meurtre de deux CRS et d'un gendarme. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Radio Notre-Dame, l'actualité autrement.
Et prochain rendez-vous avec l'information à 8h30, c'est le journal de Radio Vatican.
6h, 9h.
Les matinales.
Xavier Guillou, consultant international en gestion de risque. Quand la France réagira aux éditions Erol, il est avec nous jusqu'à 8h30. On évoquait les traitements de choc que vous aviez fait subir à une grande entreprise française qui avait pu se relever en moins de 2 ans. La France peut subir le même traitement?
Oui, alors tout le monde va rétorquer qu'une entreprise, c'est pas la France, mais vous avez un pays comme le Canada qui a appliqué exactement les mêmes méthodes. Et il faut, quand vous regardez le résultat, quand vous questionnez par exemple des jeunes qui partent au Canada, et vous leur posez la question, mais pourquoi vous partez là-bas? Et ils me disent, bon, parce que c'est un pays qui est en marche, et surtout il s'y passe des choses, quoi. Il s'y passe des choses. Les gens y croient. Et puis il y a la foi en l'avenir. Et puis il n'y a pas que ça. Enfin, il y a le retour à une certaine ouverture d'esprit, à un esprit critique, à un certain humour. Enfin bon, je veux dire, beaucoup de choses qui nous manquent. Et c'est vrai que quand moi je vais par exemple au Canada et que je les écoute, j'ai beaucoup travaillé sur la restructuration du Canada. Les Canadiens m'ont dit, mais nous, ce qui nous a fait réagir, C'est le moment où on a vu qu'on était traité par les Américains comme les nouveaux Mexicains de la zone, quoi. Et là, on a dit non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il en va de notre identité et de notre âme. Et j'ai vu dans ce pays une espèce de réaction se développer, et qui a donné tort à toutes les analyses qui pouvaient être faites sur l'époque. Et le Canada était à peu près grosso modo dans la même situation que nous aujourd'hui. Au niveau des grands fondamentaux, c'est-à-dire l'hémorragie financière avec le déficit public, le déficit commercial, enfin tout ce qu'on peut imaginer, quoi. La fuite des capitaux, la fuite des jeunes, etc. Les mêmes fondamentaux, pas les mêmes chiffres. J'en parle dans le livre. Et à un moment donné, ils ont décidé que ce ne serait plus comme ça. Ils ont décidé. Et donc tout repose sur...
c'est à la fois les élites et ceux qui suivent ces élites.
Non, ça se passe pas au niveau des élites. Ça s'est passé au niveau, au Canada, ça s'est passé au niveau de quelques politiques qui ont décidé d'aller à contre-courant de toutes les opinions de l'époque et la société civile. Et il y a eu un rétablissement de la confiance qui s'est fait autour d'un rêve commun, d'un cheminement commun. L'entreprise qu'on a, qu'on a redressé à plusieurs, hein, c'est toute une équipe qui a travaillé là-dessus, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire revenir quelqu'un qui a remis du rêve, de la force, hein, qui avait non seulement de la force de caractère, comme je dis dans le livre, mais qui avait de la force d'âme. C'est-à-dire qu'il a dit, grosso modo, à l'ensemble des responsables de ces entreprises, les 800 premiers responsables de ces entreprises, un, je suis content d'être là, alors que la situation est désespérée, et deux, on en reparlera dans 2 ans, mais vous verrez que dans 2 ans, tout le monde nous suivra. Et il a donné deux, trois axes. Et puis, il a traité, c'est ce que je suggère dans le livre, il a traité les hémorragies financières. Et quand je dis traiter les hémorragies financières, comme un jardinier. C'est-à-dire que quand vous avez un arbre qui part dans tous les sens et qui s'épuise, eh bien, il faut couper dans l'arborescence et faire en sorte que toute l'énergie, toute la sève de l'arbre revienne sur le tronc et puisse se redéployer. Eh bien, c'est des décisions qui sont dures à prendre. Mais si vous les prenez pas, vous mourrez et l'arbre meurt. Il a fait ça. Et vous ne pouvez pas faire ça sans remettre du sens. Parce que vous n'avez pas remobilisé 25 000 personnes, 40 000 personnes, comme ça, en disant, simplement, on va faire un tout petit peu de restructuration financière et puis organisationnelle, et puis point barre, quoi. Non, il a remis du sens. Il a fait en sorte que les gens avaient envie de se battre. Et puis, il a, plutôt que d'installer tout le monde dans le principe de précaution, hein, et la redistribution, vous savez, avec des chèques où on achète la paix sociale et la paix civile, comme dans ce pays, on fait ça dans ce pays allègrement, eh bien, il a réinstallé, vous savez, la notion de prise de risque, autour de la notion de projet. Et tout ça s'est mis en cheminement. Et vous ne pouvez pas engager les gens sur des cheminements forts comme ça, si vous n'allez pas sur les dimensions que je vous ai évoquées tout à l'heure, qui sont des dimensions profondes, et qui touchent à la spiritualité, qui touchent... Je suis désolé de dire ça, enfin, tout le monde va croire que je suis un excité dans ce domaine-là. Mais si vous ne mettez pas d'espérance dans des enjeux de ce niveau-là, vous ne dépassez pas le premier stade.
On ne gouverne pas avec des mécanismes.
Non, vous restez dans la boîte à outils et puis dans la technique, mais vous n'allez pas au-delà. Mm-hmm. Vous n'allez pas au-delà.
Aymeric Pourbet, bonjour.
Bonjour Louis.
La revue de la presse chrétienne, bien justement, on revient sur cette idée de savoir qui, pourquoi pas, ou quel est le profil idéal pour que ce traitement de choc, puisque le terme a été utilisé, puisse être mené à bien et puisse redresser ce pays. C'est ce dont nous parlons avec Xavier Guillou ce matin, quand la France réagira. Alors justement, il y a un profil type, non?
Alors, il pourrait y en avoir un. En tout cas, c'est l'évêque de Versailles, Mgr Aumônier, qui nous le dresse, ce portrait robot du candidat idéal. Et il insiste sur des qualités dont on parle peu pour l'instant dans la campagne. Vous avez parlé de force d'âme, vous, Xavier Guillou, tout à l'heure. Eh bien, ce sont les qualités morales des candidats. On va dire qu'on ne s'intéresse moins à son programme ou à ses propositions, mais à ses qualités personnelles. Que peut-on attendre du futur chef de l'État, cela s'entendant bien sûr au masculin ou au féminin? Alors, quelles sont ses qualités morales essentielles? D'abord la compétence, évidemment, cela s'entend, mais aussi le désir de servir le bien de tous, l'intégrité, le désintéressement personnel, la liberté par rapport aux partis politiques, ça c'est déjà moins évident. Le souci de la justice, la capacité à défendre les plus pauvres, la force de caractère et d'âme, et là on rentre dans une catégorie catégorie rare. Sans oublier non plus la capacité à choisir la vérité contre les faux-semblants, la droiture et le courage. Bref, au total, on a là le portrait d'un homme ou d'une femme exceptionnelle. Est-ce que cela correspond à nos candidats? C'est à chacun de se prononcer. Évidemment, il n'est pas interdit non plus, comme le suggère Mgr Aumônier dans son mensuel Source, qui suit en cela donc le missel romain, il n'est pas interdit de prier pour le chef de l'État, pour que, je cite, « Dieu à qui tout homme doit obéissance aide celui qui est à la tête de notre pays à remplir sa mission dans le respect de la loi divine ». Alors, Xavier Guillou, ses qualités morales, est-ce que inconsciemment, est-ce qu'elles sont encore un facteur de choix pour les Français au moment du vote?
Je pense que... Moi, je partage tout à fait cette analyse. Hein. Je rajouterais peut-être un terme à la liste. Hein. Alors là, on risque de trouver personne. Hein. C'est l'authenticité. Parce que tous nos hommes politiques et bon et même nos médias derrière, c'est peut-être pour ça que les Français sont à 60% très prudents sur ce qui se passe qui passe par les médias, mais on parle beaucoup d'exemplarité, etc. Chaque fois qu'on dit que quelqu'un est exemplaire, généralement la semaine suivante il est devant un tribunal pour des tribulations ou financières ou autre. Bon, non, je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'hommes authentiques. Et un homme authentique, pour moi, c'est la qualité morale première, c'est de pas raconter des histoires et pas de se raconter des histoires. C'est de vraiment, quand on sait pas, on sait pas. Et puis faut un esprit libre,
Mais est-ce que cette authenticité n'est pas mise en scène par les candidats lorsqu'ils
si,
vont
bah aujourd'hui on est dans le
à la rencontre de la France profonde, par exemple?
Non, mais aujourd'hui on est dans le marketing.
On est saturé de marketing même aujourd'hui.
Oui, mais moi je vais vous dire, moi j'aime bien les comparaisons nautiques parce que bon, j'ai une fibre marin, enfin marine, je veux dire.
Réserviste de la marine.
Oui, mais, enfin, je navigue beaucoup, etc. J'ai le sentiment de temps à autre, j'expliquais ça l'autre jour à des officiers de marine, j'ai le sentiment que on est dans une situation un peu particulière. Si vous voulez, vous voyez, le commandant à la passerelle n'en a plus rien à foutre de la, excusez-moi du terme, mais de la mer. Hein, la mer n'est plus son problème. Et donc, il tourne le dos à la mer et il écoute une armée de consultants qui lui bouchent même la vision panoramique qu'il peut avoir de l'océan. Et puis tout le monde lui explique comment il faut qu'il se comporte, comment il faut qu'il s'habille, comment il faut qu'il parle, comment il faut qu'il pense, etc. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'avoir un commandant à la passerelle qui regarde la mer, parce que la mer est en train de se former. Il y a les vents violents qui sont en train d'arriver de partout dans le monde. Hein, parce que quand vous regardez ce qui se passe sur le côté de l'Inde, de la Chine, le Japon qui se réarme, l'Iran avec l'affaire nucléaire, etc., etc. On a intérêt quand même à avoir des gars qui sont clairs dans leur tête. Et puis qu'ils soient des patrons, quoi, je veux dire, et un patron, bah ça a quelques convictions. Hein, il n'est pas la peine d'en avoir 40, hein, il en a quelques-unes, et c'est quelqu'un qui doit être qui doit être authentique dans dans son expression, et puis il doit piloter. Et puis bon, tous ces consultants, on les met à la salle des machines, hein, et ils réapprennent ce que c'est que de mettre les
C'est un exercice d'humilité pour vous qui êtes consultant.
Oui, oui, moi je le fais tous les jours parce que je suis confronté sur ces lignes de front qui sont celles des crises et des ruptures, hein, qu'on peut vivre dans nos sociétés. Je peux vous garantir que je suis confronté très souvent à des blancs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et on a à trouver des modes opératoires, des cheminements, à accompagner des gens qui sont dans des situations dramatiques, voire chaotiques. Et bah, dans ces cas-là, vous avez intérêt à être authentique, hein, parce qu'autrement, vous ne restez pas très très longtemps sur le pont. Hein.
Proverbe grec, le vaisseau peut périr pour avoir trop de pilotes. Est-ce que le mot rupture est judicieux?
Ça, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le cas.
Alors, aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Ça illustre bien, c'est vous qui le dites, hein, justement.
Aujourd'hui,
est-ce que le mot rupture est adapté? C'est un bon mot? Ou rupture tranquille?
Non, complètement. Ouais, la rupture tranquille. Enfin bon, ça c'est les oxymores à la française, vous savez, quand on n'a plus rien à dire, on va chercher deux mots contradictoires, comme ça on est sûr qu'on ne bougera pas. Non, je pense que nous sommes dans une situation où la rupture est déjà consommée, elle est déjà derrière nous. Le problème c'est aujourd'hui, c'est les situations chaotiques qui vont arriver devant nous. Moi, je ne peux pas... alors, tout le monde va dire qu'on fait du catastrophisme, du déclinisme, etc. Non, je veux dire, tout ça, c'est derrière, aujourd'hui. C'est derrière. Toutes les analyses sur le déclin de la France, sur les ennuis de la France, etc. Je veux dire, quand j'ai commencé à clarifier la situation de la crise française pour des financiers, pour les chefs d'entreprise, etc., parce que les financiers ont commencé à se poser la question du risque souverain français. C'est toujours très mauvais signe. Hein. C'est comme quand les banquiers commencent à s'intéresser à l'état de vos comptes. Hein. Bon... J'ai regardé tout ce qui avait été écrit sur la question. Il y en a 1m50. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de, que les audits n'ont pas été faits. Il y a, et par des gens très sérieux, que ce soit Cantus, Arthuis, pour prendre les institutionnels, enfin le FMI, tout le monde, etc. Puis par plein d'autres spécialistes, y compris des experts en psychiatrie. Tout le monde s'est penché sur la question française pour savoir dans quel état était le malade. Quoi. Il n'est pas imaginaire. Donc je veux dire là-dessus, je veux dire, toutes les analyses sont faites et aujourd'hui le pays est en faillite. Il faut en faillite à cause de son état, hein, pas de son état général, de l'état hein, qui pilote ce vaisseau. Et on ne veut pas le dire, on ne veut pas l'annoncer, on repousse sans cesse ces échéances. Et aujourd'hui, bon, on annonce aux Français plein de trucs parce que c'est très, on est dans cette espèce d'exemplarité marketing là où il faut, si vous n'avez pas aligné entre 50 et 75 milliards de promesses de redistribution sur une manne qui n'existe pas, vous ne pouvez pas exister médiatiquement parlant. Hein. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a plus les moyens. Il n'y a plus les moyens et on est en train de rentrer dans des eaux très turbulentes.
La France pourrait perdre sa notation 3A.
Ah mais je veux dire, c'est arrivé. Moi, si vous voulez, pour moi, dans l'état de la crise que j'évalue aujourd'hui, la France est dans une crise un peu singulière où le risque majeur, c'est celui de l'implosion. Et d'une implosion à l'Argentine. Avec des ingrédients que l'Argentine n'avait pas, qui sont des ingrédients un peu durs, et que nous avons, qui sont avec notamment le communautarisme qui émerge, des montées de violence que je compare à ce qui s'est passé au Liban, enfin une espèce de libanisation du terrain, hein, avec des extrémismes de tous bords qui s'affrontent, et puis au milieu de tout ça, quelque chose que j'ai aussi connu en Yougoslavie, qui est celui de l'effondrement des institutions. Qui fédère l'ensemble de notre mode opératoire État-nation. Quoi. Donc quand vous êtes dans cette espèce de crise un peu singulière entre le modèle argentin, le modèle yougoslave et le modèle libanais, il n'y a que la France qui est capable d'inventer une crise de cette nature-là. On est quelque part entre tout ça. Alors tout le monde va me dire, mais on n'est ni les Argentins parce qu'on a encore de l'argent, ni la Yougoslavie parce qu'on a encore la Ve République, même si on pourrait réfléchir beaucoup là-dessus. Et puis on n'est pas le Liban non plus parce qu'il y a encore une autorité de l'État qui s'imprime, etc. Oui, sauf que l'Argentine, le Liban et la Yougoslavie, quand ça a démarré du jour au lendemain, sans prévenir. Alors que, par exemple, vous prenez le cas de la Yougoslavie, Jean-François Deniau l'avait écrit, il l'avait dit quelques années avant que tout était mûr pour que ce pays s'effondre sur lui-même et regardez la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein d'experts qui disent attention.
Mais l'Europe nous soutient, Xavier Guillaume.
Ah, mais attendez, ça, l'Europe,
c'est la planche de salut.
Non mais ça c'est à la fois ce qui permet aux Français de dormir tranquille, mais c'est le piège. C'est le piège, parce que l'euro nous protège, permet à un certain nombre de circuits politiques de continuer à utiliser pas la planche à billets, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là, mais de tirer sur les comptes pour alimenter la paix sociale d'un côté. Maintenant, la paix civile, parce qu'il y a quand même ce problème d'insécurité qui monte, qui est quand même devenu quand même assez symptomatique depuis 10 ans. Et puis, on fait pas les réformes de fond. Si on n'avait pas eu l'euro, on en serait à la 6e ou 7e dévaluation aujourd'hui, hein, et on serait dans une autre situation.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu justement que la France n'ait pas cette assurance virtuelle.
Oui, mais si on avait, enfin avec des cifs, vous savez, on peut refaire le monde.
Sûr.
Enfin bon, je veux dire aujourd'hui, on a cette situation qui est un peu singulière. On a cette protection qui nous est assurée par l'euro, mais il faut qu'on réagisse très très vite parce qu'autrement on va poser des très gros problèmes aux Français et on va surtout se poser des très gros problèmes au reste du monde. Hein.
L'homme providentiel, Aymeric Pourbet, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser, puisque si on est encadré dans un principe européen, est-ce que l'homme providentiel peut même exister?
Alors voilà, c'est la question pour réaliser cette réforme de fond que vous attendez, que les Français attendent. Eh bien, il faut se méfier d'une tentation quand même, écrivent pour leur part, donc dans la presse chrétienne, le père Mathieu Rouget, c'est dans Panorama, et puis Christophe Geffroy dans La Nef, se défier de la tentation de croire que le salut viendra d'un homme providentiel. Le père Rouget, qui est directeur du SPEP, le service pastoral d'études politiques, affirme dans Panorama qu'élire un politique, ce n'est pas élire un sauveur ou un saint, immédiatement canonisable. Nous sommes donc dans le domaine du relatif et du meilleur possible. Et puis, ajoute Christophe Geffroy dans la Nef, n'allons pas croire non plus que tous nos maux se guériront par la venue d'un homme politique ou même par la seule réforme des institutions. Certes, il ne s'agit pas de nier l'importance de bonnes institutions ni l'influence bénéfique que pourrait avoir un homme politique clairvoyant et courageux à la tête de l'État, mais cela n'est pas suffisant, affirme le directeur de la Nef. Quand bien même nous aurions un Saint-Louis aujourd'hui, il ne pourrait pas, à lui seul, transformer d'un coup de baguette magique les mentalités, les idées et la philosophie dominante qui gouvernent nos sociétés. Alors, Xavier Guillou, on a les hommes politiques qu'on mérite. Est-ce que la réforme, finalement, prendra un peu plus de temps que prévu ?
Nous avons les hommes politiques que nous méritons, tout à fait. Et je pense que la situation dans laquelle nous sommes est une situation où nous avons une co-responsabilité entre chaque citoyen et puis ceux qui sont aux commandes. Je veux dire, parce que quand j'évoquais tout à l'heure le commandant qui tourne le dos à la mer, si tous les marins à bord se satisfont de cette situation-là, faut pas s'étonner si le bateau va directement sur les rochers, si vous voulez. Hein. Donc je partage cette analyse avec une nuance quand même. Je ne crois pas, en effet, à l'homme providentiel. Messianique au sens où
l'Europe a déjà donné.
Oui, on a déjà donné pas mal dans ce domaine-là et ça n'a pas été forcément très performant sur le fond. Mais par contre, on peut avoir des équipes, si vous voulez, hein, qui sont très déterminées, qui ont des convictions, etc. Mais il faut quand même un pilote. Moi, dans toutes les crises que j'ai traversées, si vous n'avez pas quand même quelqu'un qui porte, qui incarne, au sens de l'incarnation quasiment, hein, mais qui incarne une force de vie, une force d'espérance, c'est difficile quand même d'installer un cap pour des peuples qui aiment avoir une histoire ou aiment affronter des événements ou aller sur des lignes de défi où il faut du sens.
Mais à plus forte raison en France, la France n'est pas la Suisse.
Exactement, la France a besoin de sens.
Ou les Pays-Bas.
Mais De Gaulle l'avait très bien compris, d'autres grands dirigeants de ce pays l'avaient très bien compris. Et là-dessus, il faut quand même des hommes un peu emblématiques. Si vous prenez le cas du Canada, qui a bien fonctionné, hein, c'est un homme qui s'appelle Chrétien, qui a tiré ce pays vers un certain cheminement. Alors, il l'a tiré, tout le monde le prenait pour quelqu'un de gentil, quoi, etc. Mais il avait une force personnelle, pas une force de, je dirais, de comme on a présenté pour Monsieur Raffarin ou pour un Pinet, quoi, une espèce de force un peu tranquille, quoi, vous voyez. Non, il avait une détermination personnelle, et il était porteur, si vous voulez, d'une volonté collective à son niveau qui était assez ahurissante, quoi.
Mais alors, Xavier Guillou, justement, parce que...
Et c'est un homme qui était très simple, qui était très humble.
La volonté collective, on peut l'imaginer, justement, dans des pays comme le Canada ou la Suisse, pourquoi pas, mais en France, où il y a encore une présence idéologique extrêmement forte de certaines idées, en particulier celles issues de la Révolution, on a toujours l'impression d'être un peu gouverné par des saints justes aujourd'hui encore, ou des gens marqués par ces idées-là.
Robespierre en permanence, donc...
La réconciliation idéologique est encore impossible dans ce pays.
D'abord, la Révolution a été mal vécue, donc nous vivons depuis plus de deux siècles sur une imposture historique. Bon, donc là-dessus...
Et sur une idée messianique encore.
Ah, ben, complètement, c'est-à-dire que on la porte en plus de ça, on la vend encore au reste du monde avec une approche très universaliste. Et c'est un petit peu ce que le monde nous reproche aujourd'hui en nous disant bon bah écoutez maintenant clarifiez la situation chez vous. C'est ce que tout le monde me dit moi. Hein. Écoutez maintenant ça suffit. Enfin clarifiez vos fondamentaux, revenez un peu les pieds sur terre et puis réapprenez à vivre. C'est ce que je dis dans un chapitre du livre. Réapprenez à vivre avec le reste du monde de façon plus sereine et plus efficace aussi. Hein.
Deux messages, simplement, rapidement, avant de vous redonner la parole, Émeric. Xavier, bravo de nous faire découvrir un grand témoin comme Xavier Guillou, c'est Xavier de Paris. Dominique, également, une question. Ne pensez-vous pas que la désespérance dont vous nous parlez viendrait du fait que les hommes politiques sont coupés de leurs institutions? Nous serions ainsi des millions à parler sans être écoutés. Les députés ne sont pas à l'écoute, mais aux ordres d'un système qui dirige avec une poignée de ministres, une forme d'autisme de nos gouvernants. C'est Dominique de Paris sur legrandtémoin@radionotredame.com.
Alors, je conseille en effet à l'auditrice en question de lire le livre, parce qu'il y a deux chapitres qui sont consacrés à ça, sur le problème de l'autisme, de la schizophrénie ambiante, et qui a été très très bien analysé, notamment par des psychologues et des psychiatres, à qui je rends hommage, parce qu'ils ont fait un travail très 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 important sur l'état de la société française dans ce domaine-là, sur les modes de comportement, le déni de réalité, etc. Et sur comment est instrumentalisée l'Assemblée nationale par tout ce cholestérol bureaucratique qui s'est installé progressivement dans le temps.
Ça, c'est de vous, ça, le cholestérol, ouais, le cholestérol bureaucratique.
Qui est quasiment plus soviétique que... plus soviétisé, je dirais, que l'est l'Union soviétique. Et plus mandarinarisé, si vous voulez, que ce qu'on peut trouver en Chine. Donc, comme c'est les deux zones les plus statiques qu'on peut trouver dans le monde, arriver à faire mieux, nous, en France, c'est quand même pas forcément un gage d'efficacité. L'Assemblée nationale, moi, je connais plein de députés qui sont des gens qui sont dévoués, si vous voulez, à la société, hein, et à l'avenir du pays, mais qui sont complètement bloqués, instrumentalisés par des jeux qui sont extrêmement pervers, dont je parle dans le livre, hein, que je rends explicite dans le livre, et qui font que tout ce que les Français peuvent évoquer au cours de leur rencontre avec les députés sur le terrain ne sont pas pris en compte au plus haut niveau. Et je dirais que si on a aujourd'hui cet état de défiance des Français, cette rupture de confiance entre les élites et la société, c'est en grande partie parce que toutes ces soupapes de prise en compte de la réalité, de traitement de notre quotidien ne fonctionnent plus, quoi, je veux dire.
Aymeric Pourbet, un mot pour finir?
Oui, pour terminer cette revue de la presse sur une note d'espoir. Alors, quel sens donner à la réforme? C'était la question. Eh bien, j'ai trouvé une idée toute simple dans la revue Esprit, cette citation du Concile Vatican II, plus exactement de la constitution Gaudium et Spes. Elle est reprise par le jésuite Christophe Théobald, qui s'essaye à déchiffrer les fameux signes des temps de notre époque si troublée. Eh bien, on peut légitimement penser, affirme ainsi ce document, que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su transmettre aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Voilà.
Alors, pour moi, ça, c'est le mot... C'est le mot le plus important.
Le mot-clé, espérance.
Oui, et jeunesse. Parce que je pense que, quand on vieillit, ce qui est un peu mon cas, on a un piège fondamental qui est celui d'avoir des a priori, d'être très compliqué dans sa tête. Un jeune n'est pas compliqué dans sa tête. Un jeune, il a de l'enthousiasme, il a de l'audace, il a de la joie, il a envie de refaire le monde, il a envie de se battre, etc. Et donc, moi, je pense que la vraie priorité aujourd'hui, parce qu'il y a des urgences à traiter, mais il y a la vraie priorité aujourd'hui, c'est de tout mettre, de mettre le paquet sur la jeunesse et de leur transmettre cette force de caractère et cette force d'âme qui manque aujourd'hui aux 68 heures de service qui nous dirigent et que on n'arrive pas au niveau de nos générations à mettre en œuvre parce que la situation est en blocage total. Et la vraie question aujourd'hui, c'est la jeunesse. Il n'y a pas d'autre question.
Merci beaucoup Xavier Guillou. Quand la France réagira, merci Aymeric Pourbet aussi, hein, bien sûr, pour cette revue de la presse chrétienne à 8h05 comme chaque matin. Xavier Guillou, notre grand témoin ce matin, consultant international, expert en gestion de risque. On se reportera à la France quand la France réagira, espérons que ce soit plus tôt, sur vos conseils avec vous Xavier Guillou, remettre du sens, sortir du blocage, autant de sujets que vous évoquez dans cet essai paru aux éditions Erol. Bonne matinée.